Les rendez-vous prestataires certification sur Radio Immo.
Et bonjour, bienvenue sur Radio Immo. On est ravis de vous retrouver pour une toute nouvelle émission réalisée avec prestataires autour d'un sujet devenu central pour toute la filière, la construction bas carbone. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde partage le même cap, hein, réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Mais entre l'ambition affichée et la réalité du terrain, une question demeure: comment passer à l'échelle et surtout comment s'assurer de la performance environnementale annoncée, comment s'assurer qu'elle est réellement au rendez-vous. Autrement dit, on parle beaucoup de bas carbone, de trajectoire, de neutralité, de réglementation, mais comment sortir du discours pour aller vers du concret, du mesurable et du reproductible. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants. Rodolphe Barraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable qualité et référentiel chez Prestataire Certification. Et Alain Goujon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la construction chez Nexity. Alors on va se mettre directement en jambes, hein, avant d'avoir vos retours d'expérience respectifs. On va planter le décor. La neutralité carbone, c'est vrai qu'elle est désormais... c'est désormais un horizon partagé par l'ensemble du secteur, mais entre la réglementation, les contraintes des marchés, les enjeux de filière et les réalités opérationnelles, la route reste quand même assez exigeante. Alain Goujon, première question très simple. Où en est aujourd'hui la filière sur le sujet du bas carbone? Est-ce qu'on est encore dans une logique d'expérimentation ou est-ce qu'on est entré vraiment dans une phase de transformation profonde?
Nous sommes dans une phase de transformation profonde. Déjà, je voudrais quand même revenir sur le fait de la neutralité carbone. On parle de zéro émission nette. Et là, disons-le, à l'échelle des pays, en fait, et notamment la France, on en est encore très loin. Maintenant, en ce qui concerne le bas carbone chez Nexity, nous avons mis en place une direction du développement durable dès 2003. Et en fait, le passage à l'échelle est déjà effectif aujourd'hui. On a une trajectoire carbone qui est basée sur des... Pardon. Nous avons une trajectoire carbone qui est basée sur des résultats. Donc, on doit faire moins 42% d'émissions carbone versus 2019 pour toutes nos livraisons d'opérations 2030.
Donc, pour la construction, hein.
Pour la construction. Et on est vraiment... donc, on assure un suivi très précis pour pouvoir atteindre notre objectif.
Donc ça veut dire que tout est calculé, tout est...
Tout est calculé opération par opération. On est, je tiens aussi à dire qu'on est premier promoteur bas carbone depuis la création du label BBCA. Ça fait maintenant sur 7 années consécutives. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a anticipé, on n'a pas attendu la création des labels en fait pour faire du bas carbone chez Nexity.
Ah, c'est vrai, on l'entend. Donc ça, c'est chez Nexity, hein. Vous êtes précurseur, on va dire. Vous étiez avant même, vous faisiez ça avant même la réglementation. Vous étiez précurseur au niveau de cette réglementation. Le bas carbone, maintenant, il est devenu incontournable dans les discours. Hein, tous les acteurs s'en saisissent. Mais très concrètement, est-ce que le secteur est réellement prêt à passer à l'échelle?
Je pense que c'est en cours. De toute façon, on a la réglementation environnementale. On est au seuil 2025 aujourd'hui. C'est une réalité. Elle s'impose à tout le monde. Donc je pense que tous les promoteurs en fait s'y mettent aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Il y a cette obligation réglementaire. Et bien sûr, il y a toujours de la concurrence. Et dans le cadre des concours, on va au-delà aussi de la réglementation. Donc ça nous oblige tout ça à rechercher les bonnes solutions. Le but étant de proposer à nos clients, quels qu'ils soient, un produit qui soit abordable, économiquement tenable, en fait.
Et j'imagine qu'il y a aussi un passage à l'échelle. Comment, quand on parle de passage à l'échelle, justement, de quoi on parle exactement? Est-ce que ça concerne les matériaux, les coûts, les méthodes, les compétences, le résultat final?
J'allais dire l'ensemble de tout ça. Nous avons livré 3 000 logements hors site 2D, déjà. Là-dessus, on est vraiment sur la partie production, on est vraiment là. On travaille sur les process aussi, l'amélioration continue. Dans ma direction, nous travaillons depuis pas mal d'années maintenant, depuis une quinzaine d'années. Nous avons une direction des achats référencement, donc on référence des produits français de préférence. On est à peu près à 98% de collaboration avec des industriels français, et on va rechercher les bons interlocuteurs avec les fiches environnementales qui vont bien, qui vont dans le sens du bas carbone. Donc, et on met tout ça en musique. En fait.
Quand vous dites 98% des industriels français, ça veut dire que l'industrie française est suffisante pour le bas carbone
Par rapport à nos produits, elle est suffisante. Alors après, bien sûr, il y a l'importation de, de matières premières qui on fait pas tout en France, on le sait, qu'on est obligé de d'importer, mais ce sont voilà des groupes et des partenaires qui sont vraiment véritablement français. Et pour les 2% dont on parle, c'est sont des Européens en fait. On est vraiment là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc il faut qu'on réindustrialise la France, on le sait.
Ah oui.
On essaie de le faire de manière concrète et
voilà. En tout cas, ça y joue, ça y contribue.
Ça y contribue, oui.
Parce que forcément, quand on fait appel à d'autres pays, ça rentre dans la data pour calculer justement cette construction bas carbone. J'imagine le transport.
C'est tout à fait ça.
Donc c'est pas terrible si on fait appel à d'autres pays. Mieux vaut faire appel à des entreprises qui sont sur place, en tout cas en France. Concernant la trajectoire de Nexity, donc vous pouvez nous la rappeler et nous donner votre vision par rapport à ça. Donc vous êtes en avance sur la trajectoire.
Nous sommes en avance sur la trajectoire. Comme je le disais tout à l'heure, on doit réduire par rapport à une base qui est de 2019. On doit arriver à moins 42% d'émissions de gaz à effet de serre à échéance 2030. Donc c'est demain. 2030, et ça concerne les livraisons en fait de nos produits. Et donc aujourd'hui, on est totalement mobilisé. Pourquoi ? Parce que les livraisons de 2030, en fait, ce sont les permis de construire de 2025 et de 2026 essentiellement. Donc il a fallu travailler par anticipation, et on a effectivement des produits, on a énormément développé tout ce qui est solutions énergétiques, mais les modes constructifs. Aujourd'hui, solutions énergétiques, on est vraiment très très bien positionné, il n'y a pas grand chose à faire de plus. En revanche, sur les modes constructifs, il faut qu'on accélère.
Oui, c'est-à-dire accélérer. Il faut aller chercher d'autres solutions.
D'autres matériaux. On les connaît aujourd'hui. Il faut les déployer en filiale. Donc c'est un des objectifs majeurs de cette année avec mon équipe. C'est d'aller dans les 33 filiales de Nexity pour aller porter la bonne parole, mais pas uniquement. On a des solutions très concrètes et on va les accompagner de manière très très précise pour réussir l'objectif de 2030.
Ça coûte plus cher de construire bas carbone ?
Construire bas carbone, ça coûte plus cher. C'est souvent un peu plus cher. Effectivement, c'est quand même souvent un peu plus cher. En revanche, on travaille beaucoup aussi sur la conception. Alors, on peut mettre, nous mettons des bétons bas carbone. Hein, l'objectif, de toute façon, c'est plus une seule opération aujourd'hui avec du béton standard, très, très clairement, sur les PC, enfin, les permis de construire déposés cette année. Et on travaille vraiment sur la conception. On a sorti des bâtiments types, des logements types, de sorte déjà d'optimiser les produits. Et si on optimise les produits avec des bons rendements de bâtiments, derrière, je dirais que ça suit. Ça nous aide aussi, indépendamment de la qualité des produits, en fait.
D'accord. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut massifier, en fait, pour que ça se...
On massifie, on industrialise nos process, mais on industrialise aussi la construction. Hein, on a des solutions hors site en 2D.
Donc hors site, c'est quand il y a une partie du bâtiment qui est fait en usine, hein, c'est ça, hein.
Tout à fait, qui est fait en usine, voilà, préfabriqué, voilà, tout à fait.
C'est ça, la préfabrication.
Préfabrication, mais on a démarré, c'est ce principe de préfabrication dès les années 2010, en fait. Hein.
Voilà. D'accord.
Maintenant, il faut qu'on monte encore en puissance.
Donc vous étiez vraiment précurseur.
Voilà, je disais tout à l'heure, on a 3000 logements livrés. Depuis 2012, en fait, effectivement, voilà, précisément. On va dire c'est beaucoup, et peu à la fois par rapport à la production de Nexity.
Et puis par rapport à la demande aussi. L'utilisateur final, les ménages qui s'installent dans les logements qui sont bas carbone, ils s'en rendent compte de ce critère-là, bas carbone ? Est-ce qu'il y a une demande aussi de la part de vos...
Ils s'en rendent compte, en fait, sur leur facture, en fait. Hein. On parle beaucoup, c'est vrai, aussi d'énergie aujourd'hui. Donc on est avec ces produits-là sur des solutions électriques aussi depuis les années 2010, en fait. Il y a la maîtrise quand même de l'électricité au niveau du pays. Ce sont des bâtiments qui sont surperformants de manière sur la partie énergétique. Après, de dire qu'ils achètent nos produits parce qu'ils sont réalisés en mix bois béton ou en bois, ça je ne pense pas. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est un logement que ce soit confortable, qu'il soit bien situé et au meilleur prix possible, en fait.
Oui, bien sûr. Et le coût pour l'utiliser, encore une fois, pour celui qui va acheter le logement, est plus cher pour le consommateur ?
Non, on ne peut pas. Il y a un prix de marché, en fait.
Ouais,
on s'adapte au prix de marché.
Donc ça veut dire que vous pouvez réduire vos marges sur certaines productions ?
Potentiellement, oui. Mais voilà, maintenant, l'idée, c'est vraiment de, comme je le disais tout à l'heure, c'est de déployer massivement ces solutions. Franchement, elles existent, on les a éprouvées. Alors, on est toujours dans l'amélioration continue, bien évidemment, mais voilà, on est prêt et on s'engage.
Et juste avant de donner la parole à Rodolphe Barrault, un petit mot sur la réglementation environnementale. C'est vrai que la France est un pays très réglementé. Hein. Je crois qu'on est le plus réglementé d'ailleurs d'Europe, si ce n'est du monde. On a la RE 2020, la réglementation environnementale de 2020. Quelles évolutions depuis cette RE 2020 ?
Alors c'est vrai, vous le disiez, c'est vrai que nous sommes champions du monde, je pense, du bas carbone en France, hein, avec des réglementations. Quand on est en crise économique qui ne nous aide pas, pour autant, donc comme j'y disais, on cherche des solutions. On a depuis les premiers seuils, donc qui date de 2022, comme je le disais tout à l'heure, on a travaillé beaucoup sur les solutions énergétiques. Aujourd'hui, elles ont été anticipées. Donc il y a eu recours à l'électricité beaucoup, ouais. avec les pompes à chaleur.
Là, c'est le souhait du gouvernement. On n'a jamais été autant incité, en tout cas,
autant incité à le faire.
À
après, de dire qu'on va supprimer le gaz à 100%, ça me paraît ouais. aussi compliqué. Il faut rester pragmatique. Il ne faut pas rusher des fois les solutions qui, à un moment donné, ne sont pas forcément favorables, mais qui peuvent le devenir après coup. Donc on a beaucoup travaillé sur les solutions énergétiques. On a beaucoup travaillé aussi, je le disais tout à l'heure, sur les produits de seconde œuvre, avec des fiches environnementales, et on pousse nos industriels, on pousse les filières, donc pour nous aider justement à avoir le meilleur rendement bas carbone sur nos opérations. Et je le disais aussi tout à l'heure, les modes constructifs aujourd'hui, donc avec utilisation, c'est multimatériaux, c'est du bois là où c'est nécessaire, c'est du béton bas carbone, sont des solutions aujourd'hui aussi utilisant du béton bas carbone, solutions structurelles type poteau dalle, ce qui permet en plus à l'intérieur de pouvoir configurer les logements comme on le souhaite. Et ça aussi, c'est important en termes de commercialisation.
De configurer comme on le souhaite des logements modulables, hein, c'est ça ?
Voilà, c'est tout à fait ça.
Qui donc, peuvent évoluer aussi au fur et à mesure des années. Ouais.
Et on pense aussi beaucoup à tout ce qui tourne autour de la réversibilité.
Ouais, des bâtiments. Donc c'est là, on se concentre sur la vie du bâtiment. Hein.
Tout à fait.
Quelle vie pour le bâtiment ? Quel usage pour le bâtiment au fil des années ?
Et également, quelle seconde vie aussi ?
Quelle seconde vie, c'est
vrai. On travaille sur ces sujets-là. Et on a un projet qui va sortir très très prochainement. Donc avec un principe donc d'une résidence étudiante qui va pouvoir, dans une deuxième vie, devenir une résidence service senior.
D'accord. Très intéressant.
Et à moindre coût.
Et comme ça, là...
Avec notre partenaire Arkéa Flex.
D'accord, oui. C'est vrai qu'Arkéa sont bons pour ces types de logements. En tout cas, ils sont très intéressés là-dedans. Est-ce que le contexte économique et géopolitique complique cette trajectoire-là ? On parlait des...
Si je disais non, je ne dirais pas la vérité, donc je vais dire la vérité, rien que la vérité. Oui, ça complique.
C'est la crise énergétique, en fait, hein, qui
C'est la crise énergétique. Après aussi, c'est peut-être à un moment donné, on va peut-être avoir du mal à récupérer certaines matières premières. Ça complique, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps.
Ouais.
Mais là aussi, on suit ça de manière, avec mes équipes, de manière, je ne vais pas dire journalière, mais au moins hebdomadaire.
Ah oui.
Sur l'évolution du conflit.
Regardez quoi,
du conflit,
le cours du Brent, ouais, ce qui se passe, si ça va se terminer, le cours du Brent.
Tout ce qui est produit, on utilise beaucoup, effectivement pour la partie gaz, mais on utilise beaucoup les produits de la pétrochimie, en fait.
Bah hein, oui.
J'entendais hier à la radio que le plastique avait augmenté de 100%. Donc on a aussi, il y a des produits à base de plastique que l'on utilise dans le bâtiment. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc on est en lien avec nos partenaires industriels, on suit ça vraiment de manière très 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 précise, oui.
Ouais, j'imagine que ça doit pas être c'est stressant pour tout le monde, hein, au final. Enfin, stressant, je sais pas si c'est le mot, mais alors Rodolphe Barrault, un petit mot déjà pour présenter Prestataire Certification. Rappelez-nous ce que vous faites.
Prestataire Certification est un organisme donc de certification COFRAC, hein, parce que chez nous c'est devenu un verbe, hein, qui est donc accrédité par le COFRAC, qui permet au
le COFRAC qui est
le Comité français de l'accréditation, donc qui nous permet d'avoir une indépendance dans la délivrance en fait de notre propre certification ou des labels tiers, hein, type BBCA dont on parlait tout à l'heure. Donc qui garantit une indépendance pour les différents maîtres d'ouvrage ou collectivités ou autres, de certifier les opérations en toute transparence et avec un gage de qualité et d'impartialité pour tous les maîtres d'ouvrage. Voilà.
Alors, c'est vrai que quand on veut construire mieux, il faut aussi pouvoir mesurer mieux. Et c'est là que le rôle du certificateur devient central. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la mesure est devenue un sujet aussi stratégique dans la construction bas carbone ?
Absolument. En fait, on est passé d'une échelle d'expérimentation avec le label E+, c'est moi, hein, qui était le précurseur de la RE 2020, donc avec quelques opérations pour anticiper la future réglementation. Donc on est passé de cette échelle-là à l'échelle industrielle aujourd'hui où tous les maîtres d'ouvrage et toutes les constructions, on voit même qu'aujourd'hui pratiquement tous les bâtiments, que ce soit du logement comme des bâtiments tertiaires, sont assujettis à la RE 2020. Donc effectivement on passe à une échelle industrielle et il y a l'obligation de cette stratégie nationale bas carbone à horizon 2050, hein, d'être neutre en carbone. Et donc il faut pouvoir informer les différents organismes et prouver que les opérations in fine, une fois livrées, une fois exploitées, arrivent bien en fait à diminuer le coût carbone pour qu'on puisse justifier en fait de l'atteinte de cette trajectoire bas carbone. Et donc pour ça, il faut s'assurer que dès la conception, les opérations sont bien faites. Et en fait, un organisme comme prestataire permet au maître d'ouvrage d'assurer en fait dès la conception que les opérations, en tout cas les études, on va dire thermiques et carbone, qui peuvent être présentées au stade de la conception sont conformes et vont respecter, en tout cas jusqu'à la phase chantier et l'exploitation, ce qui est demandé en fait par le maître d'ouvrage.
Et quand on parle de mesures, qu'est-ce qu'on mesure réellement ? Qu'est-ce qui se mesure aujourd'hui ?
En réalité, on passe beaucoup, on en a un tout petit peu parlé, le bas carbone se mesure surtout beaucoup avec les fiches déclaratives environnementales et sanitaires, hein, c'est-à-dire la provenance du tout premier matériau primaire pour construire tel ou tel produit jusqu'à sa finalité. Donc on vient intégrer en fait toutes les consommations carbone de la construction d'un produit jusqu'à sa mise en œuvre et son exploitation. Donc on parle effectivement d'un coût d'exploitation d'environ 50 ans sur l'exploitation moyenne d'un bâtiment. Donc on vient mesurer en réalité l'impact carbone de tous les produits, de tous les composants aujourd'hui du bâtiment. Donc il est important de vérifier cela. Il y a évidemment des données qui n'existent pas. On n'a pas des statistiques et des produits pour avoir les bilans carbone partout. Donc après, il y a des données théoriques hein, qui sont validées.
Oui. Ouais.
Et donc pour ça, on a quand même besoin de vérifier, de justifier que les atteintes carbone, à la fois avec des données, on va dire, fixes, globales, et des données issues des fiches environnementales sur l'ensemble des composants, sont respectées. Donc on vient mesurer au travers de différents indicateurs et de vérifier, évidemment, ce qui est le rôle notamment du certificateur, de vérifier l'atteinte de tous ces objectifs, de l'ensemble de tous les produits qui sont au sein d'un bâtiment.
C'est ça les limites, on va dire, du calcul, c'est ce que vous disiez là, parce que c'est vrai qu'on évoque souvent les limites actuelles des analyses de cycle de vie, hein, des fameux ACV, fameuses ACV, et plus largement le risque d'écart entre ce qui est conçu sur le papier et ce qui est effectivement réalisé.
Bien sûr, il y a toujours des écarts, c'est pas monsieur Goujon que je vais apprendre ça, entre la théorie et la pratique.
Ouais.
La théorie, c'est souvent des calculs qui sont faits par des bureaux d'études thermiques, des thermiciens, ouais, des acousticiens, des ingénieurs, etc., et des architectes, évidemment. Tout ça est mis en œuvre sur le papier. Donc, sur le papier, c'est, on va dire, toujours facile de vérifier les choses et d'atteindre des objectifs. Ça ne coûte pas cher sur le papier. Après, il faut le réaliser, et on sait que quand on réalise, entre parfois les coûts de travaux qui peuvent différer, vous obliger à revoir parfois à la baisse certaines qualités de produits, la mise en œuvre aussi, hein, puisqu'on sait que c'est des sujets à la fois nouveaux, on parlait des nouveaux modes constructifs aussi, donc il faut garantir dans le temps que ces modes constructifs soient pérennes et bien faits dès le départ aussi sur le chantier. C'est aussi des constructions et des méthodes nouvelles, hein, pour beaucoup d'entreprises. Donc tout ça, il faut s'assurer que ce soit bien orchestré. Et évidemment, il peut y avoir toujours des écarts entre la conception et la réalisation. Et nous, on s'assure aussi, donc, de la conception jusqu'à la livraison, que l'atteinte des objectifs, en tout cas carbone, le sujet d'aujourd'hui, sont atteints. Et pour garantir, en fait, au maître d'ouvrage que l'ensemble en fait des différents chefs d'orchestre qui gèrent l'intégralité de la construction d'un bâtiment et de tous les sous-traitants et les intervenants qui peuvent être présents dessus garantissent que entre ce qui était prévu à la conception soit bien mis en œuvre. Et puis après il y a l'exploitation, les fameux 50 ans d'exploitation du bâtiment. Là évidemment, que ce soit la certification ou la maîtrise d'ouvrage, on ne peut pas être garant pendant 50 ans de l'exploitation et de la façon dont le bâtiment va être exploité à la fois par les occupants et puis aussi les risques climatiques que peut subir le bâtiment. Donc tout ça est quand même anticipé en amont sur les produits qui sont mis en œuvre et puis le bilan carbone sur les 50 ans l'usage des produits et de leur remplacement. Mais évidemment, même si on a des grands spécialistes sur le climat, on ne sait pas réellement d'ici 30 ans ce que pourra subir un bâtiment et les différents dommages. Et donc il y aura forcément une différence entre la théorie et la pratique, mais la certification, en tout cas les contrôles que l'on fait sur les études RS2E, on va dire, enfin carbone et thermique, tendent à garantir en tout cas qu'au moins jusqu'à la livraison et une bonne partie de l'exploitation, le bâtiment sera conforme aux atteintes et aux attentes du maître d'ouvrage.
Ah, c'est ce que j'allais vous demander, vous y avez répondu, du coup dans ce contexte, qu'apporte la certification en fait, qu'apporte précisément la certification?
Il y a ce contrôle-là, ouais. Et puis il y a aussi le fait d'avoir un cadre commun pour tous les maîtres d'ouvrage. Parce que avoir une stratégie nationale bas carbone au niveau de l'État, c'est bien, mais il faut des indicateurs communs pour ça.
Oui.
S'il y en a qui calculent des choux et d'autres des carottes, forcément, on ne peut pas comparer les éléments.
Ouais.
Donc la certification a un référentiel fixe, un cadre commun, que ce soit pour Nexity ou pour tous les autres maîtres d'ouvrage. Donc ça permet déjà au sein d'une même maîtrise d'ouvrage de pouvoir justifier et de comparer aussi l'atteinte des différents éléments sur leurs propres opérations. Et ça permet à l'ensemble d'autres maîtres d'ouvrage aussi de se comparer à d'autres maîtres d'ouvrage avec les mêmes indicateurs que peut proposer un certificateur. Ça, c'est une première partie. Et le deuxième élément, c'est le certificateur est toujours le précurseur de ce qui va arriver. Le certificateur a pour rôle d'être en avance de phase. On a les avances de phase sur la RE 2020, mais d'être en avance de phase sur d'autres sujets, on va dire environnementaux au sens large, qui touchent le bâtiment global. Et donc, ça permet au maître d'ouvrage de se préparer. Monsieur Goujon le disait très bien, aujourd'hui, on est sur des perspectives de 42% de diminution de consommation carbone. La stratégie, c'est demain, effectivement, pour tous les maîtres d'ouvrage, c'est demain. Donc, en réalité, on voit la stratégie depuis la sortie de la RE 2020. On a grosso modo tous les 3-4 ans une baisse en fait de consommation carbone à proposer sur les bâtiments, mais ça s'anticipe 2-3 ans en amont pour les maîtres d'ouvrage. Et pour ça, ils ont besoin d'être accompagnés, de vérifier que leurs opérations qui anticipent les phases jusqu'à du 2031, on en parlera peut-être tout à l'heure sur certaines opérations, eh bien, ils ont besoin d'un certificateur, toujours sur les mêmes critères, un même référentiel, de vérifier que ces atteintes sont là, pour pouvoir, le jour où la réglementation sortira, dire « bah nous, on est prêts, on a déjà anticipé depuis 2-3 ans cette façon de faire », que ce soit sur le carbone ou d'autres sujets réglementaires qui arriveront. Donc le certificateur est aussi là pour voir avec les maîtres d'ouvrage et les accompagner dans ces avances de phase.
Et pour un groupe comme Nexity, qui porte un volume important d'opérations et une grande diversité des programmes, en quoi la structuration, justement, par la mesure et par la certification, devient-elle indispensable ?
Pour eux, pour Nexity, c'est indispensable parce qu'ils ont besoin, on va dire au-dessus d'eux, de justifier l'atteinte, parce que ce sont certes des promoteurs qui soient à la fois, évidemment, privés, mais qui soient aussi publics. Et en fait, c'est l'ensemble de tous les acteurs qui ont l'obligation en fait de justifier de l'atteinte de ces résultats et donc pour ça il faut le justifier par différentes obligations à la fois réglementaires mais par l'atteinte de certains objectifs. On l'a vu au travers du BBCA ou bien de la certification prestataire à proprement parler. Ils ont besoin de ces indicateurs là et encore une fois d'avoir un cadre commun pour justifier que tout le monde est sur la même stratégie et la même réglementation.
Oui, j'allais dire, de toute façon vous avez un rôle de tiers de confiance.
Absolument.
On ne peut pas être juge et partie non plus.
Oui. Donc c'est pour ça que nous, on valide en fait l'atteinte des objectifs et comme effectivement on est neutre et indépendant, Nexity, lorsqu'il va annoncer les chiffres, c'est justifié par un certificateur indépendant. Et j'ai envie de dire, point final.
Voilà. Il n'y a plus rien à
redire.
Alors, on va parler maintenant justement de ce partenariat entre Nexity et Prestataire Certification qui s'inscrit dans la durée et qui illustre justement ce que vous disiez, cette volonté de structurer la démarche. Ce partenariat, il existe depuis 10 ans.
Oui.
Pourquoi il dure ?
Ah, pourquoi elle dure déjà? Tant mieux. Tant mieux. Pourquoi elle dure? Bah, je pense que c'est aussi un gage de confiance entre les deux partenaires. C'est ouais. que on répond en fait aux attentes de Nexity depuis 10 ans, à la fois pour valider en réalité leurs objectifs à la fois de certification globale, hein, pas forcément que carbone, mais leurs objectifs environnementaux qui sont en phase de progression d'année en année. Hein, les objectifs à la fois réglementaires qui obligent et puis des objectifs aussi, on va dire, propre aux promoteurs. Donc ça, on est là pour vérifier, encore une fois, de façon sur l'ensemble de leur parc, d'avoir un cadre commun. Donc ça, c'est important aussi pour eux, ce partenariat. C'est aussi un partenariat qui permet d'anticiper, puisqu'on le verra sur certaines opérations, d'anticiper les avances de phase sur différents sujets, et notamment le carbone, d'avoir encore un certificateur indépendant par rapport à cela. Et on a aussi cette souplesse en fait dans nos référentiels. Parfois, les référentiels peuvent être un peu rigides et stricts. Nous, on a un référentiel qui permet de s'adapter à chacune des opérations sur le territoire, puisque chaque territoire a parfois son mode constructif un peu différent, et ses obligations territoriales, eh bien, nous, on répond à cela avec une certaine souplesse dans nos référentiels et on permet d'adapter tout en ayant ce cadre commun que cherche notamment un promoteur national. Donc, c'est entre autres pour ça que ce partenariat dure et j'espère qu'il durera encore plus de 10 ans.
Alors, Alain, justement, côté Nexity, qu'est-ce que ce partenariat a concrètement changé dans votre façon de travailler?
Nous, c'était important d'avoir plusieurs partenaires, en fait. À l'époque, si je reviens une douzaine d'années en arrière, les premières certifications voilà, que l'on a vécues étaient principalement positionnées sur l'Île-de-France. Et en fait, au niveau des régions, les opérations sortaient au niveau des régions, il n'y avait pas de demande de certification. Donc on était vraiment aux prémices. Et comme l'a dit Rodolphe tout à l'heure, je trouve que voilà, il y a un côté pragmatique, simple pour les équipes. Alors bien sûr, il y a de la formation, il y a aussi des piqueurs de rappel. Hein, et puis on va remettre encore en place des webinaires donc pour entre juin et septembre près des équipes parce qu'il y a toujours des évolutions. C'est vraiment ce côté agile, pragmatique. Ça a été dit. Bon, effectivement, on a besoin d'un référentiel commun. Et au-delà de ça, on a travaillé ensemble aussi sur des on a fait du sur-mesure pour certains de nos clients. La caisse pour CDC Habitat, notamment. On a travaillé le référentiel. Ils avaient des demandes spécifiques pour leurs opérations. Ben, on a travaillé ensemble pour le proposer aussi à nos clients bailleurs sociaux. Donc, voilà, c'est tout ce travail-là. Et puis, je vais le dire aussi, il y a des conditions financières, puisqu'il y a massification, des conditions financières qui nous vont bien aussi.
Est-ce que ce partenariat vous a aussi permis de passer dans une logique de projet pionnier à beaucoup plus structuré, plus industrialisé, on va dire, et plus transmissible à l'échelle du groupe, peut-être d'une filiale à une autre?
Oui, il y a le côté process aussi, effectivement, ouais. un process partagé sur tout le territoire. Ça, c'est essentiel pour éviter que nous avons aujourd'hui 33 filiales. Pour éviter que qu'une filiale fasse à sa façon, enfin voilà, ce côté amélioration continue, process partagé, simple, le plus simple possible pour les équipes parce qu'elles ont beaucoup à faire aujourd'hui sur le terrain, voilà, c'est essentiel pour nous.
Et côté prestataire certification, justement, Rodolphe, qu'est-ce que ça change d'accompagner un acteur qui travaille sur du volume, sur des produits très différents et sur des territoires multiples? Est-ce que ça vous permet aussi de faire évoluer les méthodes ou des référentiels ou la lecture du marché?
Absolument. Nous, on a besoin de ces retours de grande échelle. Hein. Comme je vous disais, on est les précurseurs, les certificateurs, on est surtout les précurseurs des futures réglementations ou futures évolutions réglementaires ou sociétales d'un point de vue général. Donc on a besoin des retours terrain, des modes constructifs, des évolutions des modes constructifs, des évolutions des coûts de construction aussi, parce qu'il est important de ne pas toujours avoir l'envie de se faire plaisir hein. En tant que certificateur. On pourrait dire c'est facile, hein. Un tas d'exigences qui vont à des seuils stratosphériques, et puis en réalité c'est inatteignable d'un point de vue financier pour les maîtres d'ouvrage. Donc c'est en permanence ce jeu de possibilités de faire tout en ayant ayant la conviction de dire bah, il faut parfois pousser le curseur pour pouvoir avancer. Et donc, on a besoin de tous ces retours terrain, de mode constructif, d'évolution de faire, d'évolution d'usage aussi pour l'acquéreur final ou le locataire final. Parce qu'avant tout, on prône tous en fait, la qualité d'usage pour les occupants in fine. Hein. Ce n'est pas uniquement dans la stratégie bas carbone. Évidemment, ça, on est tous concernés par le climat. Et donc, ça devient une obligation. Mais c'est avant tout pour proposer des logements de qualité. Et quand on dit qualité, c'est au sens large, c'est le confort thermique, l'acoustique, la qualité de l'air, les consommations d'énergie, etc. Et donc, on a besoin de tous ces retours terrain, puisque nous, certificateurs, on est évidemment moins concernés. On n'est pas à proprement parler directement sur le chantier ou sur la construction. Donc, on vient récolter tous les documents nécessaires et tous les retours terrain. Donc, on a besoin d'un grand partenaire qui a un volume d'opérations pour pouvoir prendre des décisions sur les évolutions de référentiel, parce qu'on aura des retours de grande échelle et pas à toute petite opération éparse par-ci et par-là. Donc on a besoin de ces retours-là pour faire évoluer nos produits.
Est-ce que la donnée, la certification deviennent aussi un outil de management et de décision?
Oui, tout à fait.
On peut aller jusqu'à dire ça, ouais.
On peut dire ça. C'est un outil de management. Alors, Rodolphe évoquait tout à l'heure les coûts. On a mis en place un observatoire des coûts de construction,
ouais,
qu'on suit de manière très précise.
C'est intéressant, ouais.
Oui, et on a lancé également, on y travaille depuis un an et demi. Ça y est, la mise en œuvre est effective aujourd'hui. Un plan de performance.
D'accord.
Plan de performance qui vise quatre macro-leviers. Le levier de la conception, c'est important quand on parle aussi bas carbone. Hein. Le levier de la conception, l'optimisation de la conception, optimisation des achats de fournitures, optimisation également des achats de travaux. Et ensuite, la phase exécution, maîtrise de l'exécution en fait, de nos chantiers. Donc ce sont des process internes. Ça passe aussi par le choix de partenaires, que ce soit les architectes, avec qui on travaille bien, qui savent...
Donc ça fait partie du plan, ça.
Ça fait partie du plan, tout ça. On appelle ça une panélisation, en fait, de partenaires, donc en architectes, bureaux d'études, entreprises, et bien évidemment, partenaires aussi en tant que certificateurs.
Alors, on va justement, pour finir, parler de projection. Ce plan-là, j'imagine que ça va vous aider à structurer l'avenir, à peaufiner votre stratégie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Vous comptez passer une nouvelle étape, je ne sais pas, en termes d'échelle, est-ce que de démocratisation de certains modes de construction, qu'est-ce qui est en train de se passer chez Nexity? Vous qui êtes précurseur.
Le but, en fait, aujourd'hui, comme je l'ai dit en préambule, c'est de réduire très clairement nos coûts de construction, mais sans rogner sur la qualité, sur les réglementations.
Donc là, c'est l'équation économique, quoi. Vous concentrez sur l'équation économique.
Il y a l'aspect économique. Il faut penser donc client.
C'est le nerf de la guerre. Hein.
Voilà, c'est le nerf de la guerre. Client final aussi, et ouais. Notion de qualité de prestation, qualité de confort d'usage. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui, pour nous, est essentiel. En fait, il faut rendre nos produits économiquement viables pour nos clients,
et
à la fois désirables. Donc c'est une équation assez complexe.
Surtout si les taux remontent là, ce qui est en train de se passer.
Les taux ont déjà bien remonté.
Ouais.
Ils sont plutôt, je crois, aujourd'hui aux alentours de 3,5%. Bon, la situation au Moyen-Orient ne nous aide pas non plus, mais pour autant, on reste mobilisé. Tout ce qu'on peut faire, on le fait, en fait.
On n'a pas beaucoup parlé des équipes, de l'acculturation des équipes. Est-ce que, justement, chez vous, vous cultivez le bas carbone auprès des équipes? Il y a une montée aux compétences aussi, j'imagine, des équipes.
Oui, tout à fait. On a un certain nombre d'académies, on appelle ça les académies techniques, en fait, ouais, pour l'acculturation. Ça a démarré chez Nexity par les commerciaux, ensuite l'académie technique, l'académie du développement et l'académie programme, pour vraiment porter sur l'ensemble des métiers. Concernant le bas carbone, ça fait depuis la réglementation, et même avant, avec l'ancienne réglementation, on a toujours mis en place des modules de formation auprès des équipes, et on continue bien évidemment à le faire, parce que le bas carbone, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiel. On va même jusqu'à aujourd'hui, on vient de passer un partenariat avec une société, c'est pour une plateforme bas carbone qui va nous permettre d'être beaucoup plus fins dans nos calculs initiaux. On a mis en place des formations. Elles sont terminées depuis lundi. En l'espace de 15 jours, on a pu donc faire un tour de France. Mes équipes ont fait un tour de France pour l'utilisation de l'outil qui va nous permettre d'aller plus loin dans le bas carbone et dans cette maîtrise en fait, au niveau des calculs. Et ensuite, comme le disait Rodolphe, après livraison, c'est quand même là aussi, il faut pouvoir confirmer, garantir en fait les performances. Et donc là, comme ça a été dit, il y a les RS2E, et donc là aussi, on va les récupérer. Hein, donc c'est un récapitulatif en fait standardisé des études énergétiques. Et c'est ça qui va, au final, qui va nous dire, vous êtes vraiment complètement on est complètement dans les clous. Même on a même pu améliorer le bilan carbone de l'opération.
Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à justement ces modes de construction bas carbone? Même oui. Là, avec ce qui se passe actuellement, qui vient ternir un peu quand même les.
Oui, ça vient apporter un peu de complexité. C'est vrai qu'on est tous pas très gâtés depuis 2020.
COVID, ouais. Ouais.
Depuis 2020.
C'est vrai qu'il y a eu un enchaînement Covid, guerre en Ukraine.
On va dire que ça commence à faire beaucoup.
Ouais. Ouais.
Pour autant, non, on a une direction et on ne va pas en changer. Le bas carbone ne va pas s'arrêter demain. Le bas carbone, c'est pas une exception. En fait, c'est devenu la norme. Et donc, notre groupe a décidé d'aller même au-delà de la norme. Donc, c'est pas toujours évident à tenir, mais nous sommes focus sur nos engagements et on tient à les tenir jusqu'au bout, en fait.
Oui, parce que là, la vraie question, pour résumer, hein, c'est est-ce qu'on sait désormais faire du bas carbone de manière fiable, reproductible et économiquement tenable, viable, hein, c'est ça la question.
Oui.
C'est ça la grande question.
Oui, la réponse est oui. Et pour rejoindre les propos de Alain, c'est Nexity, nous on le voit depuis 10 ans, c'est plus de 26 000 logements et 700 opérations, donc on a un certain retour d'expérience avec eux. Et on le voit en fait dans l'évolution des modes constructifs. Le bas carbone oblige à changer les choses. Ça fait 80 ans que la France construit en tout béton. Le tout béton, c'est un peu fini parce que le tout béton, c'est très lourd et c'est pas très bas carbone. Donc ça oblige les constructeurs, les architectes à revoir leur cahier des charges. On parle de la RE 2020, c'est pas si vieux. Hein. La RE 2020, c'est 2021-2022. Donc c'est quand même pas si vieux que ça en vrai. Et on voit déjà des changements d'échelle et des changements de mode constructif considérables. Moi, si je prends des exemples d'opérations de Nexity, ils construisent en mixte, effectivement, en poteau-poutre, en bois. Ils passent avec des matériaux biosourcés. On n'est plus sur des matériaux issus de la pétrochimie, en tout cas de moins en moins. Donc on essaye aussi de se sortir de tout ça. Évidemment, au début, les premières années, tout ça, c'est un surcoût constructif parce qu'il faut changer les habitudes de tout le monde, les habitudes des industriels. Et puis, dans 10 ans, ce sera la norme, la nouvelle norme de construction et ce sera même plus le sujet. On parlera peut-être d'un autre sujet, j'espère.
Et peut-être dans moins de 10 ans.
Et peut-être dans moins de 10 ans, évidemment, parce qu'il y a l'accélération des choses. Donc, tout ça, c'est parfois, effectivement, les crises s'accumulent un peu depuis 5-6 ans. Mais c'est parfois dans les crises qu'on ressort l'excellence. Et il y a aussi, dans ces crises qui obligent la France à accélérer et à faire vite. On le voit notamment avec le contexte géopolitique, à sortir des énergies fossiles le plus vite possible, à retrouver une indépendance énergétique et une indépendance aussi sur l'ensemble des restes des produits, même si on n'y arrivera pas à 100%, mais quand même. Et donc on le voit avec l'utilisation des matériaux biosourcés, du bois, du béton bas carbone, des structures beaucoup plus allégées, du hors-site. On voit sur des opérations comme Puteaux, avec des salles de bain qui ont été faites hors-site. Donc on a des modes constructifs qui évoluent de façon exponentielle. Par rapport à une habitude qui était pérenne depuis 50, 60 ans. On construisait tout béton et puis ça allait très bien. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on a changé d'échelle et on continue, et Nexity notamment, continue à accélérer ce changement-là. Alors comme toute innovation et précurseur, ça a un coût. Mais je pense que c'est surtout dans le bon sens d'aller là-dessus. Il faut tenir bon, même si toutes les opérations ne sont pas forcément rentables dans un premier temps. Mais ces modes constructifs seront généralisés dans 10 ans et ça, mécaniquement, ça fera baisser les coûts de construction, les méthodes, on ira plus vite aussi dans le montage des opérations, puisque construire avec des structures plus légères, ça permet aussi d'aller plus vite. Donc voilà, c'est un ensemble de choses et il faut tenir bon. Et de toute façon, on n'aura pas le choix. J'ai envie de dire, on n'aura pas le choix. Il faut y aller, il faut tenir le cap. Maintenant, effectivement, il ne faudrait pas que les crises continuent à s'accumuler aussi pour aider
pour tout le monde.
Tout le monde à pouvoir y arriver.
J'allais dire en complément, oui, on se doit de poursuivre l'innovation, mais aussi d'aller vers vraiment l'industrialisation de nos modes constructifs. Je prendrais comme exemple le village des athlètes.
Oui.
Sur le village des athlètes, donc, pour ce qui nous concernait, nous avions 19 bâtiments. 12 bâtiments de 6 étages qui étaient prévus donc en mixte bois-béton pour des sujets environnementaux qu'on peut comprendre. On s'est mis d'accord en amont avec les 6 architectes pour définir un principe constructif. Alors bien sûr, chacun avait son droit, j'allais dire, à l'architecture, au choix de matériaux. Mais le principe, mais le principe constructif a été le même en fait sur ces 12 bâtiments. Donc ça permet l'industrialisation. Il faut qu'on aille vers ça. Ça me paraît important. Et en termes d'industrialisation aussi, donc il y a l'opération. On a une opération à Bondoufle, l'opération qui a démarré avec notre partenaire Maître Cube, qui est une entreprise du bois, qui est de notoriété en France. Et en fait, on travaille avec eux sur, là aussi, une industrialisation des process. Et on va aller beaucoup plus vite en conception. On sait exactement comment on doit construire. On accélère. Et la première opération, donc premier démonstrateur qu'on fait avec eux, donc sur cette opération, on a gagné deux mois de délai.
Bah oui.
Rien qu'avec la conception. En lien aussi avec un environnement qui va bien, donc un architecte et bureau d'études qu'on connaît. Pour nous, c'est le temps, il est également important. Il faut qu'on arrive à concevoir plus vite, il faut qu'on arrive à construire plus vite. Le temps, c'est de l'argent, on le sait, donc on travaille là-dessus.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour cet échange passionnant. Ce qu'on retient de cette discussion, donc, c'est que le bas carbone n'est plus un simple sujet d'image ou d'intention. C'est désormais un sujet de méthode, de pilotage, de mesure et de capacité à transformer réellement les pratiques. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Radio Immo.
Les rendez-vous prestataires certification, une émission à réécouter et télécharger sur le site et appli de radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.